Je vous conduis dans l'évangile de Jean, au chapitre 11. Dès le départ, nous avons chanté la résurrection, la vie. Il est question de tombeau qui s'ouvre, de Jésus qui guérit. Et c'est un peu de tout cela dont il va être question maintenant. Alors, ce grand chapitre 11 de l'évangile de Jean, verset 1er, va prendre le temps de lire la parole, puisque le dimanche, c'est un temps consacré au Seigneur. Et il est bon que nous prenions acte de cette parole, la parole de Dieu qui travaille nos cœurs, lorsque nous la lisons, lorsque nous l'écoutons. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis alla place secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et dit, où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ? Jésus, frémissant de nouveau lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en disant, les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Amen. Alors parmi nos habitudes, nous en avons d'autres qui consistent à réserver la prédication de l'Évangile aux réunions d'évangélisation. Est-ce que cela voudrait-il dire que l'Évangile ne concerne que les païens, les inconvertis, ne concerne que ceux qui sont au tout début de la vie chrétienne, que la prédication qui prend sa source dans les Évangiles doit être considérée comme du lait spirituel, qu'il n'y a pas suffisamment de profondeur chez Matthieu, Marc, Luc et Jean? Alors, je vous rappelle ce que Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Je vous rappelle Colossiens chapitre 1, verset 21, où Paul déclare, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. La prédication qui repose sur l'Évangile sera toujours nécessaire. C'est l'accent que nous mettrons sur cet Évangile qui sera différent selon l'auditoire. Alors acceptez que ce matin, mon exhortation est pour départ, pour appui, ce récit de la résurrection de Lazare, que vous connaissez, que nous connaissons. Mais il y a encore tant d'autres choses à découvrir dans la parole de Dieu. Nous sommes loin d'avoir épuisé tous les trésors. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce que pensent les plus anciens d'entre nous, qui lisent la Bible depuis plusieurs dizaines d'années. Pensez-vous avoir épuisé tous les trésors? Oh non, il y en a encore tellement. Et je disais ce matin au Seigneur, « Seigneur, je n'ai fait que surfer pour prendre... » un verbe, un anglicisme, surfer sur ta parole, il y a encore tellement de choses à découvrir. Parmi les rappels que j'aimerais faire ce matin, il y a cet évangile de Jean, qui est le quatrième évangile, mais qui a été écrit le plus tardivement. C'est Jean, dans un âge fort avancé, qui, à Éphèse, a écrit cet évangile inspiré par le Saint-Esprit. Jean, vous savez, Jean, le frère de Jacques, appelé par Jésus à cause de leur caractère impétueux, Boanerges, fils du tonnerre. On a du mal à imaginer Jean avec un tel caractère, car nous le découvrons à travers non seulement de l'évangile, mais encore de ses épîtres, comme un homme d'une douceur et d'un amour extraordinaire. Et nous avons là l'image de ce que Dieu peut faire dans un cœur. Lorsqu'on apprend de certains ce qu'ils étaient autrefois, on se dit combien le Saint-Esprit est puissant pour avoir fait de lions, de loups, des agneaux. Hein? Quand on regarde ce que nous étions avant de connaître le Seigneur et ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons bénir le Seigneur pour l'œuvre qu'il a faite en nous. Jean se désigne lui-même comme l'auteur de son évangile. Quand on lit certains commentateurs qui mettent un doute sur l'auteur de l'évangile, il semble évident que ce soit Jean, car lui-même, au dernier chapitre de cet évangile, chapitre 21, donc, et au verset 20, déclare celui que Jésus aimait, c'est celui qui a écrit cet évangile, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, qui avait dit « Qui est celui qui te livre ?» Voilà comment Jean parle de lui-même. Alors cet évangile a des différences notables avec les trois autres. C'est un évangile qui rapporte beaucoup plus que les autres les paroles de Jésus. C'est dans cet évangile qu'on trouve les 15 « je suis ». Ces « je suis » qui correspondent et qui peuvent correspondre à différentes circonstances ou à différents états que nous pouvons traverser. Alors parmi ces 15, je vous en cite quelques-uns. Parmi les plus connus, il y a « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le bon berger. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Eh bien, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis le vrai cep. Et tant d'autres encore. Je suis la porte. Nous en avons lu tout à l'heure. Je suis la résurrection et la vie. Et nous trouvons même ce « Je suis le Fils de Dieu ». Jésus déclare véritablement son identité. Il est important, et c'est là le but de l'évangile que Jean a écrit. Il nous dit qu'il a écrit cet évangile pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà la raison de cet écrit, pour nous amener à confesser que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et nous trouvons cette déclaration, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est pourquoi nous devons pleinement recevoir ces « je suis ». Sinon, nous pouvons mourir et nous mourrons dans nos péchés. Or, le Seigneur est venu pour vous donner la vie. Ce Christ qui, dans cet évangile, se manifeste à la fois comme homme, et nous trouvons dans le récit que nous avons lu des aspects de l'homme que nous relèverons tout à l'heure, mais il se manifeste aussi comme étant le Fils de Dieu, cette double nature qui cohabite et qui pose question et qui intrigue. Ça fait partie des mystères, ça fait partie des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Mais nous découvrons à la fois ce Dieu fait homme et cet homme qui est véritablement Dieu. Le Fils de l'homme, Jésus. Jésus qui apparaît dans ce texte dans toute sa fragilité humaine. Nous le voyons pleurer, ému, avec des émotions, frémissant même. Tout ce que nous pouvons connaître en tant qu'être humain. Il nous a dit, il fut profondément bouleversé dans son fort intérieur et ne put dominer son émotion. N'est-ce pas purement humain cela? Ne pas pouvoir dominer son émotion? Cela ne vous arrive-t-il pas? On y voit couler les larmes de Jésus. Connaissez-vous une plus grande preuve d'humanité que de pleurer avec ceux qui pleurent? On dit que ce verset là est le plus court de la Bible, mais qu'il en dit long sur la sensibilité et la compassion de Dieu fait homme. Si quelqu'un doute de la capacité d'émotion de Dieu, ce simple verset doit à lui tout seul vous convaincre. La capacité d'émotion du Seigneur. Ces larmes, ce sont des larmes de partage. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il partage le chagrin de ceux qui, devant cette tombe qui pour eux est définitivement fermée, sont confrontés à la cruelle vérité. Nous ne verrons plus Lazare. C'est fini. Jésus pleure avec ceux qui sont en deuil, tout en sachant ce qu'il va faire. Il ne pleure pas à cause de Lazare, parce qu'il sait qu'il va le ressusciter. Tout ceci semble juste et vrai dans ce récit, et peut nous permettre de nous projeter. On peut s'y voir, on peut vivre ces moments, parce que n'avons-nous pas vécu de moments semblables, soit dans notre propre vie, lors de la perte d'un être cher, soit lorsque nous avons essayé d'accompagner ceux qui avaient perdu un être cher. Dans la perte d'un être cher, nous pouvons ressentir quelquefois une sorte d'injustice. Et nous pouvons aussi nourrir des reproches pour ceux qui sont passés par là. Il demeure que, bien que croyant et bien que sachant tout ce que nous savons sur la mort et l'éternité, il arrive quand même que nous soyons tristes. Comment ne pas l'être? Ne plus voir quelqu'un que l'on aime, même si l'on sait qu'un jour on va le revoir au ciel, ça occasionne des tristesses. Et Paul, donc, à cause de cela, a dû écrire aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Afin que vous ne vous affligiez point comme ceux, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il y a un peu plus d'un an, nous avons perdu notre frère. Et donc j'ai prêché lors de ses obsèques. Il n'avait que 18 mois de moins que moi. Et perdre un frère plus jeune, c'est toujours un moment triste, difficile. Et comme il n'y avait pas d'église évangélique, nous avons demandé la permission au prêtre catholique d'utiliser son église, ce qu'il a fait facilement. Et donc nous sommes retrouvés dans cette grande église, dans un village languedocien. Et là, il y avait plus d'une centaine de personnes parce qu'il était connu. Et sur 100 personnes, il devait y avoir au moins 90 personnes qui n'avaient jamais ou presque jamais entendu l'Évangile. Donc c'était une occasion rêvée que d'annoncer l'Évangile. Et c'est ce que nous avons fait avec Albert. Nous avons annoncé l'Évangile dans cette église. Et à la suite de cela, plusieurs personnes sont venues nous voir et nous ont dit qu'elles avaient été émues par la cérémonie et par la paix qui était là, qui était présente. Et même, une personne a dit, même une espèce de joie. Alors, toute contenue. Mais dans l'espérance, il y a de la joie. Dans le fait d'entendre ce message de consolation, nous pouvons y trouver de la joie. Voyez-vous ? Alors, bien sûr, il y a la tristesse, mais il y a aussi l'espérance. Alors, parmi les remarques que je veux faire concernant ce passage, il y en a une qui a trait à la connaissance que ces gens qui étaient là et qui entouraient Jésus avaient de la résurrection. Que savaient-ils de l'après? Quel enseignement avait-il pu recevoir? Alors, en réfléchissant, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la doctrine de la résurrection était quelque chose d'assez obscur. Le croyant qui mourait descendait dans le séjour des morts, dans le Shéol. Nous trouvons quelques allusions dans le livre de Job, dans le livre de Daniel, dans le livre d'Ésaïe, quelques allusions sur une vie éternelle, sur la résurrection, mais tout cela est obscur. Alors, nous pouvons comprendre que ces gens soient là et n'aient pas la même connaissance que nous aujourd'hui. Parce que la révélation de Dieu est semblable à ce soleil qui paraît et qui monte graduellement jusqu'à parvenir au zénith. Et dans l'Ancien Testament, la révélation s'est faite progressivement du livre de la Genèse, puis dans le Nouveau Testament, avec au zénith le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, bien des mystères de Dieu nous ont été dévoilés, révélés. Et Paul a reçu la révélation de ces mystères et il nous en parle, mystères cachés de tout temps, mais aujourd'hui révélés. Lorsque nous lisons 2 Timothée chapitre 1 verset 10, nous lisons que Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Réalisez-vous notre privilège d'avoir aujourd'hui la connaissance que n'avaient pas les croyants de l'Ancienne Alliance. Alors, cela nous permet de ne pas être trop sévère avec certains d'entre eux parce qu'ils n'avaient pas tout reçu. Et de toute façon, aujourd'hui, même si nous en savons davantage, nous partageons avec Paul cette humilité de dire « Nous connaissons en partie. » Nous connaissons au travers d'un miroir. Mais un jour, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Donc, même aujourd'hui, nous avons à faire preuve d'humilité, réalisant qu'il y a encore tellement de choses à apprendre, à connaître, à recevoir. Donc, nous découvrons quand même que Marthe et Marie, en tant qu'amis de Jésus, sont plus avertis et croient à la résurrection au dernier jour. Mais de toute façon, qui dans cette foule s'attendait à un tel miracle ? C'est vrai que Jésus avait opéré déjà deux miracles, au moins deux miracles de résurrection. Il est question de la fille de Jaïrus, que Jésus ressuscite. Son corps était tiède, elle venait juste de mourir. Puis Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm, qui lui est certainement mort la veille, puisque la coutume voulait que les morts soient enterré très rapidement, donc son corps était froid. Mais concernant Lazare, il nous a dit, il sent déjà. Donc le processus de décomposition était en route. Et l'on pouvait tout raisonnablement dire, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Vous savez ce qui a précipité la mort de Jésus ? C'est la résurrection de Lazare. Alors que Jésus ramenait Lazare à la vie, lui abandonnait la sienne volontairement. La vie de Lazare au mépris de sa propre mort. Ce dernier miracle a coûté très cher à Jésus, car il va précipiter son arrestation et sa crucifixion à cause de la jalousie des hommes religieux, des pharisiens et des prêtres qui voient le peuple se détourner d'eux pour aller vers lui. Jésus devenait trop, trop dangereusement populaire. Alors, supprimons-le. Ne tardons plus. Mais cette résurrection, cette pierre qu'il faut rouler, me fait penser, vous fait certainement penser, à notre pierre qui doit être roulée. C'est notre pierre qui fermait un autre tombeau. Vous pensez comme moi au tombeau de Joseph d'Arimathée, dans lequel on plaça le corps de Jésus. Et ces femmes qui allaient le dimanche matin pour l'embaumer, pour embaumer ce corps, se posaient la question « Qui va rouler la pierre ?» Et lorsqu'elles arrivèrent, la pierre avait été roulée. En tant qu'être humain, enfin moi comme ça, en tant qu'être humain, je cherche toujours un sens à ce qui m'arrive. Et vous ? On se pose toujours la question, pourquoi ça arrive ? Quelle est la raison de cette épreuve ? Et nous nous trouvons, nous nous heurtons ici à un retard. Alors, vendredi soir, votre pasteur nous a prêché sur les silences de Dieu. Et il y a une très belle étude à faire sur les retards divins. Les silences de Dieu et les retards divins. Car quelquefois, Dieu tarde. Au point même d'arriver trop tard. Et nous avons, nous aussi, ce reproche tout près. Seigneur, si tu avais été ici, cela ne serait pas arrivé. Pourquoi as-tu tant tardé? De plus, tu tardes alors que tu es l'ami de cette famille. Alors, si on ne peut même pas compter sur son ami, de plus, Lazare veut dire « Dieu est mon secours ». Alors, tous ceux qui entouraient Lazare pouvaient se poser la question, ça sert à quoi d'avoir un nom comme celui de Lazare, « Dieu est mon secours », et ça sert à quoi d'avoir pour ami Jésus, si c'est pour se retrouver tout seul face à l'épreuve et ne pas être secouru. Une question. Voulez-vous devenir ami de Jésus? En général, on n'a pas beaucoup d'amis. Un, deux, trois peut-être. Et vous pouvez vous sentir indigne d'être ami de Jésus. Alors je vous dirai au passage que ce n'est pas très compliqué de devenir ami de Jésus, car lui-même le dit, Jean chapitre 15, verset 14, Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà. Si vous faites ce que le Seigneur demande, alors là, vous pouvez vous trouver devant un cas de conscience, en vérité, honnêtement. Vous sentez une petite voix vous dire « Est-ce que tu fais tout ce que le Seigneur demande ?» Et à cause de cela, est-ce que tu peux être compté parmi ses amis ? Ben, le fait déjà de se poser cette question est une preuve d'honnêteté. Et le Seigneur connaît notre faiblesse. Mais en tout cas, nous avons la volonté, j'ai la volonté de faire tout ce que le Seigneur demande, et je ne doute pas un seul instant de ne pas faire partie du groupe de ses amis. Alors, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. C'est un retard voulu, calculé. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Et d'ailleurs, plus loin, le Seigneur déclare, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors ce Dieu qui a permis la mort, c'est ce Dieu qui va accourir pour glorifier sa puissance et son autorité. Vous ne devez avoir aucune inquiétude. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le croient, nous dit Pierre. Il use de patience. Il use de patience. Et certainement, derrière un retard, il y a des raisons, et nous aurons l'occasion, certainement, d'en trouver quelques-unes dans la suite de ce message. Pour qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu, il faut qu'un obstacle soit enlevé. C'est là la responsabilité humaine. Quel est cet obstacle? La pierre. Une grosse pierre. Ne pensez-vous pas que le Seigneur aurait pu ordonner à la pierre de rouler? Cela ne lui aurait pas été plus difficile que de dire à Lazare, sort, puisque lui-même dit qu'il suffit que nous disions à l'arbre, déracine-toi et va te planter ailleurs, une montagne, déplace-toi. Qu'est-ce qu'une pierre? Donc, nous sommes d'accord pour dire, si le Seigneur avait ordonné à la pierre de se déplacer, la chose se serait faite. Il aurait pu très bien ordonner à quelques anges de rouler la pierre. Les anges sont des serviteurs et ils se seraient exécutés automatiquement. Des mains invisibles auraient roulé la pierre. Mais, dans cette circonstance-là, le Seigneur se tourne vers ceux qui sont là en leur disant « ôtez la pierre ». Et là, nous nous trouvons devant nos responsabilités. Dieu agit, c'est vrai, mais il n'agit pas sans nous. Il veut que nous collaborions et il y a des choses qu'il ne fera pas parce que c'est à nous de les faire. Et à ce moment donc de ce message, je voudrais vous laisser avec une question à laquelle chacun aura à répondre. N'y a-t-il pas dans vos vies une pierre qui masque un lieu sombre, un lieu obscur, un lieu dans lequel ça sent mauvais? Il y a un cadavre. Est-ce que nous n'avons pas masqué cela en mettant une pierre? La pierre de l'oubli, par exemple. Et comment le Seigneur pourrait-il intervenir dans mon cœur, dont il est dit que le cœur, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme? Psaume 64, verset 7. Avez-vous pris conscience, prenez-vous conscience que votre cœur est un abîme et qu'il vous arrive de ne pas vous comprendre? Il vous arrive de vous questionner, mais pourquoi j'ai réagi comme cela? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peut-être essayé de sonder votre cœur. Vous avez découvert que c'est un puits sans fond. C'est un peu comme Fontaine de Vaucluse, hein, vous savez. Le gouffre d'où jaillit de l'eau et que l'on n'est pas parvenu encore à mesurer la profondeur. Dans un miracle, dans une guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit d'ordre profonde, plus intime, il y a ces deux éléments, ma part et l'action divine. N'y a-t-il pas, maintenant ce matin, dans votre cœur, un point dur, un obstacle, un couvercle que vous ne voudriez pas voir déplacer? Est-ce qu'il n'y a pas un refus de votre part, plus ou moins explicite, implicite, tout sauf ça? Tu peux rentrer dans toutes les pièces, Seigneur, sauf celle-ci. Quand vous avez des gens qui viennent visiter votre maison, quelquefois il y a des lieux que vous ne faites pas visiter. Ce sont les lieux les plus intimes, c'est votre vie, c'est votre jardin secret. Nous avons tous des sortes de pierres qui ferment des lieux dans lesquels nous avons jeté tout ce dont nous ne voulons plus entendre parler, tout ce dont nous ne voulons plus nous souvenir, nos blessures, nos souffrances, nos souvenirs, etc., etc. Et en faisant cela, nous pensons que nous ne souffrirons plus. Mais c'est là. C'est là. Et le Seigneur veut te dire ce matin, mais je veux rentrer dans ce lieu pour le purifier. C'est un lieu de corruption. C'est un lieu de putréfaction. Oui, mais Seigneur, ça sent mauvais. Ben oui, je sais que ça sent mauvais. Mais je suis la résurrection et la vie. Et je veux te ressusciter à une vie nouvelle. Avant cette vie qui n'aura plus de fin, je veux déjà sur la terre produire en toi cette résurrection pour que tu connaisses cette vie abondante. Tu es infesté au plus profond de ton cœur. Lâche donc toutes ces choses, abandonne-les, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te secourir. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ton frère ressuscitera. Ben oui, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Non, mais c'est maintenant que je veux le ressusciter. Oui, Seigneur, je sais que tu me transformeras. Je sais qu'en te voyant, je serai un être totalement nouveau. Non, mais c'est maintenant que je veux le faire. Oui, Seigneur, je sais que là-haut, il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. Oui, je sais. Non, mais c'est maintenant que je veux. Je vais éliminer toutes tes sources de larmes, de cris, de douleurs, d'amertume. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je voudrais en rester là ce matin, parce que cet après-midi, on continuera. Et ça peut vous donner envie de voir avec moi ce que symboliquement cette pierre veut dire, plus précisément. Mais déjà ce matin, je veux vous laisser avec cette réflexion. Si une pierre ferme quelques lieux sombre de votre cœur, qui ressemble à un tombeau dans lequel la lumière ne peut pas pénétrer, dans lequel ça sent mauvais, alors c'est cette pierre que le Seigneur veut ôter pour vous libérer. N'ayez pas peur, vous ne souffrirez pas plus parce que le Seigneur, celui qui a la résurrection et la vie, se chargera de le faire avec son tact, son amour, sa bonté, sa compassion. Il vous invite à la croix ce matin. Et cette pierre qui vous demande d'ôter peut-être Vous sentez-vous incapable de l'ôter? Alors tout seul, vous ne pourrez pas l'ôter, peut-être. Mais avec l'aide du Seigneur, il est possible de la rouler et de voir la lumière rentrer et d'entendre cet ordre. Sors! Sors de toi! Sors de ta misère! Sors de ta misère! Amen. On va continuer à louer le Seigneur. Alléluia.